Il est 7h30 à Abidjan et Ouagadougou. C'est RFI que vous écoutez. Restez avec nous, 9h30 à Paris. Et Vincent Dublanche pour l'actualité africaine.
Et à la une, la Côte d'Ivoire. On va détailler le contenu des cahiers de doléances des syndicats. Ils ont pu les déposer, ces cahiers, hier, en ce jour de 1er mai, sur le bureau du Premier ministre. Au Burkina Faso, des organisations de la société civile interpellent la Cour pénale internationale, l'Union africaine, notamment sur la violation des droits humains majeurs dans le pays. Le portrait, dans 5 minutes, de la roqueuse du désert, l'Algérienne Hasna El-Bacharia, figure de la musique Gnawa, décédé hier. Le journal des sports et la satisfaction de l'Ivoirien Sébastien Haller après la victoire de son club hier soir, Dortmund contre le PSG, 1-0 en demi-finale aller de la Ligue européenne des champions. Et donc d'abord, retour sur ce 1er mai, fête des travailleurs et travailleuses et de leurs droits en Côte d'Ivoire. On le disait hier, il y a une trêve syndicale dans le pays. Et l'idée, c'est que depuis 2 ans et jusqu'en 2027, il n'y a pas de manifestation, pas de grève. En échange, il y a un dialogue qui a pris corps hier, notamment avec cette rencontre à la primature que vous nous racontez, Binta Diagne.
5 délégués syndicaux exposent leurs revendications. La liste est longue. Ils demandent notamment l'application du salaire minimum dans le secteur privé et le secteur agricole. La transformation du secteur informel ou encore le versement de pensions de retraite complémentaires dans le privé. Après les avoir écoutés, le Premier ministre rappelle que 209 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mettre en place plusieurs réformes sociales. Robert Begré-Mambé promet que les points en suspens dans le cadre de la trêve sociale seront bientôt appliqués.
Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Nous aurons des séances explicatives. Nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage.
Cet engagement rassure les syndicats qui comptent bien mettre en avant la question de la cherté de la vie lors de ces discussions. Parmi eux, Joseph Kofi Akanza, le 4e secrétaire général adjoint de l'UGTCI.
C'est la cherté de la vie et puis les denrées de consommation qu'il faut revoir. D'un quartier à un autre, les prix diffèrent. Le sachet de la ménagère, ça reste toujours le sachet de la ménagère. Ce n'est pas le panier de la ménagère. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on parvienne à un calendrier de travail et qu'on parvienne à réaliser toutes les promesses qui ont été données.
Le Premier ministre a encouragé les travailleurs à souscrire à toutes les réformes de protection sociale mises en place ces dernières années. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Un 1er mai sous tension au Bénin. 72 manifestants interpellés à Cotonou hier. 20 ont depuis été relâchés. Ils avaient tenté de se rassembler. Un meeting syndical, en revanche, a pu se tenir à la Bourse du Travail. Une nouvelle manifestation contre la vie chère est prévue le 11 mai. Samedi dernier, une manifestation autour de ce même mot d'ordre a tourné court dans la capitale économique béninoise. Pas autorisée, ont dit les autorités. Pas besoin d'organisation, mais d'une simple déclaration, avaient répondu les organisateurs. Il y avait eu ce samedi 29 brèves arrestations. Le Bénin, où est arrivé hier le patron des forces américaines en Afrique, le général Michael Langley, à Cotonou pour 48 heures. Il va rencontrer tout à l'heure le président Patrice Talon et le chef d'état-major des armées béninoises. Principal objet de la visite du commandant d'Africom, la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis s'appuient beaucoup sur le Bénin dans ce domaine. Dans un contexte aussi où ils sont priés de quitter le Niger et où des militaires américains ont dû quitter le Tchad, provisoirement, dit-on, à Washington DC. Son nom était dans toutes les conversations syndicales hier au Burkina Faso à l'occasion de ce 1er mai. Moussa Diallo, le secrétaire général de la CGTB, licencié la semaine dernière de son poste d'enseignant au centre universitaire de Manga de l'université Norbert Zongo, renvoyé pour absentéisme alors qu'il doit se cacher depuis janvier pour se protéger des menaces dont il fait l'objet de la part de certains soutiens virulents du régime. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso qui inquiète plusieurs structures de la société civile, les coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, alerte ainsi sur les nombreux massacres de civils au Faso, sur la privation aussi de liberté d'acteurs de la société civile, de syndicats, d'hommes politiques. Les responsables de ces coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites, Frédéric Garra.
Dans un courrier transmis à l'AE, mais aussi à des interlocuteurs de l'Union africaine et aux Nations unies, les coalitions francophones énumèrent les millions de Burkinabés déplacés, les milliers de morts victimes d'attaques terroristes, mais aussi d'exactions commises par les forces régulières ou leurs supplétifs VDP, sans oublier certains crimes à caractère ethnique commis sur le territoire burkinabé. Il est notamment question de l'enlèvement de plusieurs personnalités civiles ou politiques, d'enrôlement forcé dans l'armée, ou encore des massacres de Nodin et de Soro en février dernier. Face à ce cycle d'impunité, souligne le document, il est crucial que des procédures judiciaires soient engagées pour arrêter les auteurs et rendre justice aux victimes, concluent les auteurs du texte. Pour le moment, à La Haye, Addis Abeba ou New York, il n'y a pas eu de réaction notable à cette énième alerte.
À La Haye, le siège de la Cour pénale internationale, New York, le siège de l'ONU, Addis Abeba, le siège de l'Union africaine. Au Nigeria, une énième pénurie de carburant paralyse le pays. Pays qui produit beaucoup de pétrole brut, mais qui continue d'importer la majeure partie de son essence raffinée, faute de raffinerie opérationnelle. Les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes et les revendeurs illégaux ont repris du service, Lisa Fabian.
La compagnie pétrolière nationale du Nigeria, la NNPC, se veut rassurante et promet que la pénurie de carburant arrive bientôt à son terme. Mais les longues files d'attente ne se sont pas résorbées devant les stations-service du pays. À cause de la pénurie qui tire les prix du carburant vers le haut, bus et taxis se font rares et certains élèves ont même dû renoncer à faire leur rentrée en début de semaine faute de moyens de transport. Mais comme souvent, difficile de cerner les causes exactes de cette énième crise. La NNPC évoque des problèmes logistiques sans plus de détails. Ceci concernerait notamment le déchargement du carburant dans le port de Lagos. Le coût de ces opérations a largement augmenté au mois d'octobre pour compenser l'instabilité du Naira face au dollar. Plus de 200 groupes et associations de la société civile ont appelé ce mardi à la démission du directeur de la NNPC, accusé de mauvaise gestion. Les patrons de stations-service indépendantes, également à la peine, demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en service de la raffinerie publique de Port Harcourt, actuellement prévue pour le mois de décembre.
Dans l'est de la RDC, on l'évoquait hier, cela se confirme, le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle de la localité de Rubaya au nord Kivu, territoire de Masisi. C'est ce que dit un porte-parole du groupe rebelle, soutenu par le Rwanda selon de multiples rapports d'experts de l'ONU et d'organisations non gouvernementales indépendantes. Un responsable d'un centre de santé parle de 3 morts civils et 7 blessés auprès de l'agence France Presse. Rubaya est une localité stratégique en termes de production minière. Il y a une importante exploitation de coltan et de cobalt sur place. Cette première au Royaume-Uni, une semaine après l'adoption par le Parlement de la loi qui permet l'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, des exilés en situation irrégulière ont été arrêtés et placés en détention pour préparer leur future expulsion. Le ministère britannique de l'Intérieur souhaite expulser 5700 personnes vers Kigali d'ici la fin de l'année. Davantage d'arrestations devraient donc être menées dans les semaines à venir, puisque le Premier ministre Rishi Sunak a évoqué de premiers vols vers le Rwanda d'ici 9 à 11 semaines. Et c'est dans un autre cadre légal qu'un migrant africain a été envoyé depuis Londres vers le Rwanda. C'était mardi, un retour dit volontaire en échange d'argent. Les autorités britanniques s'en félicitent en cette période préélectorale. Les précisions à Kigali de Lucie Mouillot.
Selon le gouvernement rwandais, cette première arrivée d'un migrant en provenance du Royaume-Uni concerne un homme d'origine africaine dont la demande d'asile a été rejetée en fin d'année dernière par les autorités britanniques. Une relocalisation volontaire dans le cadre d'un programme annoncé en mars pour donner la possibilité aux migrants déboutés par Londres de choisir entre être renvoyés dans leur pays d'origine ou réinstallés à Kigali avec une aide de près de 3500 euros. Un programme différent du traité migratoire signé entre les deux pays, l'accord controversé, dénoncé par plusieurs associations de défense des droits humains, prévoit l'expulsion vers le Rwanda sans étude préalable de leur demande d'asile sur le territoire britannique de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. Après l'adoption la semaine dernière à Londres du projet de loi encadrant cet accord, les premiers avions sont attendus d'ici 2 à 3 mois, selon les autorités rwandaises. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Le Sénégal et le célèbre promoteur de lutte Gaston Mbeng qui est décédé dans la soirée, décédé des suites d'une longue maladie, une longue maladie qui l'avait éloigné de l'arène de la lutte sénégalaise depuis maintenant plusieurs années. Homme d'affaires natif de Louga au sud de Saint-Louis, Gaston Mbeng a organisé les plus grandes affiches de lutte sénégalaise. Il a participé à faire émerger les grands noms de ce sport favori des Sénégalais comme Balagaï 2 ou Modou Lo, entre autres. La chanteuse algérienne Hasna El Bacharia est elle aussi décédée hier. Elle avait 74 ans, c'est une annonce de la télévision algérienne. Elle était une grande figure de la musique Diwan ou Gnawa. Guillaume Fabry nous brosse son portrait.
Hasna El Bacharia, la rockeuse du désert, est célèbre pour avoir été la première femme à jouer du gombri, un instrument à cordes nord-africain. Née près de Béchar, dans l'ouest de l'Algérie, en 1950, d'origine sahraoui, elle est une légende de la musique nawa, un genre mêlant des traditions profanes et sacrées héritées des anciens esclaves subsahariens en Afrique du Nord. Asna El Bécharia se révèle dans les années 1970 en animant les fêtes de mariage dans sa région natale au sein d'un groupe de 4 musiciennes. Son premier album, Jazair Johara, sorti en 2002, est un savant mélange de reprises traditionnelles nawa et de créations originales jouées au gombri ou à la guitare. Encore en tournée en Europe il y a quelques mois, Asna El Bécharia n'a cessé de revisiter la musique nawa tout au long de sa carrière.
Yann Fabry du service Afrique de Radio France Internationale et RFI Musique. Si vous aimez la musique, le choix musical du jour dans 10 minutes avec Nathalie Amar. Carmen Lunsman du service Culture vient nous présenter le 4e album du groupe londonien Fat White Family. Et toujours d'ailleurs, si vous aimez la musique, à lire sur le www.musique.rfi.fr, notre site spécialisé, le portrait du percussionniste sénégalais qui vit aux États-Unis, Magat Sow. Il a travaillé avec Angélique Kidjo, il a aussi travaillé avec le compositeur de la bande originale des films Wakanda Forever et Black Panther. Je vous signale aussi notre dossier du jour, si vous l'avez raté il y a une heure, consacré au Ghana, à Kumasi, à l'émouvant retour d'objets sacrés Ashanti pillés il y a 150 ans par les Britanniques. C'est à retrouver sur RFI.fr, onglet Afrique, Nathalie Amar.
Merci Vincent Dublange, bonne journée à vous. L'actualité africaine revient à 10h30 avec Alexis Guillou.
Nathalie Amar.
Et à la une du prochain journal sur RFI, Donald Trump entre deux audiences de son procès pénal pour l'affaire Stormy Daniels. L'ancien président et candidat pour l'élection de novembre prochain attaque son adversaire démocrate Joe Biden sur sa gestion.